Bonjour à tous. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Luc Dupont, journaliste médical et scientifique et spécialiste de l'histoire du Québec au 20e siècle. Il est accompagné de Diane Poirier, bibliothécaire et grande passionnée de l'art contemporain. Nos invités nous transportent dans l'univers de Guy Moffett, célèbre animateur du cabaret du Soir qui penche, émission qui occupa les soirées du dimanche de la radio, à la radio de Radio-Canada de 1960 à 1973. Il nous convie à découvrir la carrière de cet homme qui cumula avec un rare talent les rôles d'acteur, de réalisateur et d'animateur. Une période de questions suivra la présentation. Avant de céder la parole à Luc Dupont et Diane Poirier, je vous rappelle qu'il est interdit de prendre des photos. Nous avons un photographe officiel. Il est aussi interdit d'enregistrer la conférence que vous pourrez d'ailleurs réentendre sur le portail Internet de BANQ. Merci aussi d'éteindre vos cellulaires. Je vous souhaite une très belle rencontre.
Bonjour à tous et à toutes. Je crois bien que le mot le plus juste que j'ai pu trouver pour qualifier notre rencontre d'aujourd'hui, ce soit retrouvailles. Retrouvailles entre un public et un artiste tant aimé. Pour un grand nombre d'entre vous, ces retrouvailles sont une occasion de reprendre contact avec une présence qui est encore nichée, j'en suis certain, dans la partie la plus affective de vos souvenirs. Si tant est vrai que les mémoires auditives, et olfactives d'ailleurs, sont les plus durables, étant liées à la partie limbique de notre cerveau qui se trouve aussi être le siège de nos émotions. Que ces retrouvailles aient lieu au sein de Bibliothèques et Archives nationales du Québec, le symbole même de notre mémoire collective, aurait réjoui Guy Moffett. Car c'était quelqu'un qui était proche de la mémoire et du temps. Proche du temps concret. Car il aimait la vie des objets anciens autour de lui. Il était aussi proche du temps poétique. Par exemple, pour lui, le passé, c'était du présent qui ne meurt pas. Si Guy Moffett ne nous avait pas quittés en 2005, il aurait eu 94 ans le 8 janvier dernier. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parcourir son presque siècle d'existence. Le presque siècle d'existence d'un artiste, à mon sens, aussi important que Félix Leclerc et Jean-Paul Riopel. Je vous propose d'écouter avec moi des extraits audio de ses anciennes émissions et de le voir sur DVD. Les thèmes, en fait, ça sera l'enfance, la famille, l'histoire de la radio, l'histoire de Montréal, l'histoire du théâtre, les radioromans, Un homme et son péché, chansons québécoises, le cabaret du soir qui penche, et enfin, des inédits, des dessins de Guy Moffett, à peu près jamais vus, bien qu'il en ait fait des centaines et des centaines. Mais d'abord, je demanderai à monsieur le technicien de me faire un noir sur écran pendant que j'extrais de ce petit outil convivial, quand il le veut bien. un premier extrait de Guy Moffett.
La prochaine heure, nous vous présentons en rediffusion l'émission du 26 octobre 1986 de la série de Robert Blondin « Voici Radio-Canada » qui soulignait le 50e anniversaire de notre radio. Robert Blondin y recevait Guy Moffett.
Le cabaret du soir qui penche. Hello, you are there. This is the Night Falling Cabaret. Au microphone, l'oiseau de nuit. At the microphone, the night bird. A guy named Guy. Et comme le chant traînait, ombre entre les ombres, je demeure fidèle à d'autres ombres. Tu te souviens, le cabaret, c'était à l'heure où le berger rentre son troupeau, entre chien et loup, à la brunante, à l'heure où le soir penche. C'était au temps, ah, c'était beau, où l'aurore et les tombées du jour s'épousaient harmonieusement. C'était au temps où, entre les tendres saisons, l'hiver se révélait radieusement juvénile. C'était au temps des amours. Au temps où ma barque sentait bon le fleuve. Le temps du travail et de l'acharnement. Le temps des hauts faits, des victoires insouciantes. Le temps de l'abondance et de la fertilité. C'est bien simple. C'était au temps où je ne savais pas. Et voilà que le miracle se reproduit. Qu'un été adolescent imprime dans ton âme son regard de jeune Dieu. Tu entends ses pas, hein, de par-delà les monts, les vallées, les plaines. Tu entends son rire et la chanson de son geste, puisant dans son cœur infini le moindre amour qui donne vie. Et voilà qu'au même instant, la fourmi se met en marche, elle, qu'une étoile scintille, qu'à l'oscillement de l'océan, un train de marée parcourt le littoral, que toute germination est à pied d'œuvre, que l'invisible, agissant sur tout être et toute chose, se rit de la preuve et du constat. C'est comme ça. Que le ciel, pas si haut qu'on le dit, pas si haut qu'on le croit, enveloppe de ses voiles tous les enfants des hommes. Bye.
Bye. C'est pas bye qu'il faut dire, c'est bonjour, Guy Moffett.
Bonjour.
C'est un dessert parce que après un an d'émission sur le cinquantenaire de Radio-Canada, à l'avant-dernière émission, il n'y a pas d'autre vraiment à recevoir que Guy Moffett. Ça fait tellement plaisir de vous voir.
Je vais dire comme l'autre, c'est trop.
Oh non.
Mais je vais vous faire une confidence. Je suis un peu triste. Je suis un peu moins fou qu'avant. Pour moi, la folie, le mot folie commence par la lettre F. Pour moi, c'est une hélice. Elle a une vertu propulsive. Toute sa vie, on est l'esclave de sa folie. À la fin, faudrait bien en devenir le maître.
Mais vous n'êtes pas vraiment maître de votre folie, Guy, c'est pas vrai.
Il ne faut pas s'en départir, parce que c'est un don du ciel. Dans la folie, il y a de la créativité, il y a une ivresse merveilleuse. Je parle d'une belle folie, bien sûr.
Mais elle est tellement belle, votre folie, qu'elle donne des très grandes nostalgies. Est-ce qu'on pourrait encore, si la chose était possible, disons que... Hein, jouons comme des enfants. Imaginons que, disons que c'est pas la guerre, disons que c'est beau, et disons que Guy Moffett pourrait revenir, et qu'on offrirait une émission à Guy Moffett. Il accepterait Guy Moffett?
Ah, avec un trac terrible.
Et le cabaret du soir qui penche, Guy, vous le referiez?
Toute ma vie, mon moteur, c'était la timidité, l'angoisse, la peur. C'est ça qui provoquait mes audaces.
Je vais vous avouer que moi, quand j'ai entendu ça en 1986, alors que Robert Blondin terminait cette émission qui avait duré un an, célébrant semaine après semaine chacune des années qui avaient marqué le cinquantenaire de Radio-Canada, et que j'entends cette voix-là, et que j'entends cet homme dire de façon simple, honnête, qu'il est triste, qu'il se sent triste, qu'il est comme il est. Je vais vous dire, j'ai senti une vérité tellement importante que je me suis dit, moi, un jour, je rencontrerai cet homme-là. Ça a été le point de départ. Et j'en ferai le parcours d'une vie. Si vous voulez, on va tout de suite entrer dans son enfance. Parce que c'est des choses qui ne sont pas très connues, ça. Le Guy Moffett qu'on a aimé, mais d'où est-il sorti? Lumière sur écran, s'il vous plaît. Voilà Guy Moffett, né en 1915, en pleine Première Guerre mondiale. Pas étonnant qu'il porte dans ses habits de jeu celle du petit soldat. Quand on s'est rencontrés, il m'a dit, « Savez, moi, je me promenais, enfant, autour des hôpitaux, et il y avait là, ils s'appelaient les gazés de la guerre de 14, qui criaient, « Hey, little boy! » Son père, tout le côté médical de la famille, M. Louis-Octave Moffett, était vétérinaire. Demeurait à Sainte-Cunégonde, qu'on appelle aujourd'hui la Petite Bourgogne. Au début du 20e siècle, il y avait encore beaucoup de chevaux à Montréal. Et M. Moffett gagnait bien sa vie, je vous jure. On le voit, derrière lui, c'est la rue Coursol, la petite rue Coursol qui est encore tellement belle quand on se promène dans ce coin-là. Donc, Guy Moffett était à un jet de pierre du canal de la Chine. Il était dans la zone très industrielle, en fait, du Québec. Il était dans l'arrière-cour, allaient naître Oscar Peterson et Oliver Jones, qui n'étaient pas encore nés. Peterson naîtra en 25. Donc, il y a un environnement particulier là qui est intéressant de regarder. Bien qu'il y avait beaucoup de chevaux, évidemment, il commençait à y avoir des voitures au début du 20e siècle et M. Moffett en avait une, promenait les enfants. Et on dit qu'à l'époque, 1915-1920, il y avait à peu près 10 000 voitures dans tout le Québec. Mais quand on regarde la place Jacques-Cartier, lieu de marché, il y en a encore beaucoup de chevaux. Léontine Lavigne, la mère de Guy, et c'est très, très important d'en parler parce que Mme Lavigne, c'était une musicienne professionnelle. Elle était fille d'organiste-pianiste. Le grand-père Lavigne de Guy, Emery, était un professionnel aussi. Accompagnait les grands artistes de passage qui passaient par Montréal. Et Guy avait deux grands-oncles, dont un était très célèbre. Il s'appelait Ernest Lavigne. C'est lui qui a fondé le Parc Sommer, qui était sur les terrains de Molson, rue Notre-Dame. C'était un parc en plein air. On dit que c'était l'ancêtre du parc Belmont. Alors, il se faisait du cirque, il y avait des orchestres de parc, les gens allaient prendre une bière, amener les enfants le dimanche. C'était encore une époque de grande épidémie. Hein? Et on s'était mis à se dire que dans les villes, il fallait qu'on mette maintenant des espaces verts pour que les gens puissent respirer quelque part. Et c'était devenu une sortie, je dirais, pas vraiment guindée, mais très populaire. Et qu'Ernest Lavigne ait fondé ce parc et que le grand-père soit accompagne les grands musiciens de passage, que la mère soit pianiste professionnelle, a fait dire à Guy Moffett, il dit « Je suis né dans un jardin de musique. » Il y avait de la musique dans cette famille. Voici leur salon rue Coursol. Guy m'a dit qu'il était beaucoup en dessous du piano quand madame, sa mère, jouait. Vous avez le violoncelle de son frère Laurel. Il y avait un frère. Ils étaient sept dans cette famille, si je ne me trompe pas. Un violon aussi. Et c'était, en fait, le salon d'une famille, d'une petite bourgeoisie francophone. Et à cause des réputations du grand-père et de toute cette musique dans la famille, il y avait beaucoup de soirées chez les Lavigne. Madame Moffett organisait des soirées très hautes en couleur et Guy captait tout ça. Ça entrait en lui. Sa plus vieille sœur, Bérangère, née en 1902, dans ses soirées, bien, ça avait, je dirais que les soirées avaient cette couleur-là. On voit tout de suite, il y a un peu du salon allemand romantique ou du salon de Paris. Mais bon, hein? On recevait des Européens à Montréal, donc ils passaient là puis ils trouvaient un peu quelque chose de reconnaissable. Ah! La grand-mère, vous allez me dire, mon Dieu, c'est un vrai album de famille. Mais tout ça est important. Tout ça est important pour comprendre à quoi s'est nourri ce Guy Moffett. Elle s'appelle Elisabeth Vautier Moffett. Il l'a bien connue parce qu'elle est morte en 1939. Attends un petit peu. Oui, 1939. Elle est morte à 97 ans. Croyez-le ou non, mais Guy Moffett est allé voir les premiers films de Chaplin avec elle, au Corona, sur Notre-Dame. Et moi, quand il m'a dit ça, ça m'a beaucoup touché. Parce que je me disais, Guy Moffett en soi, c'est un siècle. Il a été en contact étroit avec une grand-mère qui, elle, est née au milieu du 19e, elle aussi, c'est une centenaire. Les deux ensemble, mon Dieu, c'est presque 200 ans. C'est la moitié de la Nouvelle-France. On a fêté le 400e de Québec. Donc, en donnant la main à Guy Moffett, puis en lui demandant de me parler, j'avais la moitié de notre histoire. C'est fascinant. Et Guy Moffett était vraiment attaché à ça, à ces racines-là. Pas nécessairement que ça paraissait dans la façon qu'il avait de faire de la radio, mais je dirais dans ses propos, mais dans sa façon d'avoir été nourri par tant d'influences diverses et d'avoir été probablement hypersensible, ça teinte quelqu'un, ça. Dernière image de l'album de famille. Ici, on voit trois générations. La grand-mère encore, le père et la même fille que tantôt, c'est-à-dire Bérangère Moffett, la plus vieille des sœurs, avec Lucien Thériault, son mari. Eh bien, je me suis rendu compte à un moment donné que quand on regarde les trois générations qui sont là, on a trois moments de l'histoire des télécommunications au Québec. La grand-mère qui est née en 1841, elle est née 7 ans après l'invention du télégraphe en 1834. Le père qui est né en 1879 ou autour est un enfant du téléphone. Le téléphone est apparu en 1874. Et la sœur, 1902, Bérangère, est contemporaine de l'arrivée du télégraphe sans fil, la TSF, qui est l'ancêtre de la radio. En 1901, Marconi avait réussi de l'Angleterre à Terre-Neuve à faire voyager au-dessus d'un océan la première communication sans fil transatlantique. Il avait fait traverser la lettre S. Et ça avait marché. Et Guy Moffett est né en 1915, 7 ans avant que CKAC soit fondé en 1922. Tout ça pour dire que la radio n'est pas une création spontanée non plus. Elle était appuyée sur un passé scientifique et technologique, que j'ai beaucoup aimé retracer d'ailleurs. On y est dans cette histoire de la radio et je me suis rendu compte aussi que ça passe par Montréal, tout ça. Ça passe par Montréal, je vais vous expliquer. Berliner, le fabricant de gramophones, il était installé à Saint-Henri, une usine immense. Il faut dire que Montréal, c'était le cœur économique du Canada à cette époque-là encore. Et le cœur économique était beaucoup tourné vers toutes les nouveautés scientifiques. On disait, la science, c'est le progrès. Et à Montréal, il y avait donc Berliner. Il y avait aussi Trefflé Berthiaume, le créateur de la presse, passionné de technologie, M. Berthiaume, et qui, lorsque Marconi a fait traverser la lettre S au-dessus de l'Atlantique, était tellement enthousiaste de cette percée qu'il a fait la une de la presse en disant « Marconi, l'homme du siècle ». Et c'est intéressant parce que Marconi va effectivement s'installer au Canada, à Halifax. Après, il va construire une usine à Montréal et ils vont développer des équipements de radiotélégraphistes. Et ils vont former des radiotélégraphistes aussi. Et ils vont équiper les bateaux de la flotte canadienne pendant la Première Guerre mondiale. En haut, à droite, ce que vous voyez, c'est l'école des radiotélégraphistes de Marconi au début du siècle. En bas, Jacques Narcisse Cartier, le fondateur de CKAC. Le Titanic, qu'est-ce que le Titanic vient faire dans notre histoire? Bien, ceci. La radiotélégraphie, la télégraphie sans fil, se développe au début du 20e siècle. Et c'est assez captivant qu'on réussisse à faire des communications sans fil. Marconi équipe des navires. Les navires sont équipés, ont à bord des radiotélégraphistes. Et lorsque le Titanic, au large de Terre-Neuve, on le répète encore parce que tout ça, ça se passe dans notre giron, quand il coule, bien, le radiotélégraphiste envoie son signal, son SOS. Et grâce au message, on va sauver 800 quelques personnes. Des bateaux qui patrouillaient autour vont venir sauver ces gens-là. Mais à partir de ce moment-là, c'est là que dans la psyché populaire, l'idée du sans-fil vraiment a fait un malheur. C'est là que ça commence. On est en 1912. Et là, on n'a pas encore idée de ce que sera la radio, parce que la télégraphie sans fil, c'est quoi? C'est du morse d'un point à un autre. La radio, c'est une émission, une radiation à partir d'une antenne, mais qui est captable par toutes sortes de postes. Il faut voir cette chose-là aussi. Ça prend des visionnaires pour voir cette chose-là. Et Montréal, avec ce que je viens de vous raconter, est comme très, très bien placé pour tirer son épingle du jeu dans ce qui se prépare. Le Jacques Narcisse Cartier que je vous ai montré tantôt, qui a fondé CKAC, imaginez-vous que lui, il est allé travailler avec Marconi à Halifax. Il s'est formé. Il s'est formé pour devenir, en 22, le créateur de CKAC. CKAC avait mis ses antennes sur le toit de la presse. Et depuis un petit peu plus de 20 ans, CKAC, grâce à la télégraphie sans fil qu'il avait depuis 1904, grâce à l'enthousiasme de Trèfle et Berthiaume, il s'était lié avec 4 journaux à Saint-Louis, à Londres, à Paris et à Montréal, et il s'échangeait des nouvelles internationales par télégraphie sans fil. Et tranquillement, à cause de l'enthousiasme de Trèfle et Berthiaume, toute cette idée de radio brassait à Montréal. Il y avait même beaucoup d'amateurs qui se bâtissaient des choses pour capter les signaux des bateaux. Et lorsque le Titanic envoyait son SOS, je vous prie de me croire qu'il y a eu beaucoup de Québécois qui ont entendu le signal. C'est quand même quelque chose. Moi, quand j'ai réalisé tout ça, je me disais, quelque part, la grande histoire passe par chez nous. Dernier élément d'histoire, avant de retourner à la vie de Guy Moffett, publicité d'une revue sur la radio en 1931. Regardez les détails de ça. Un orchestre en bas, avec au-dessus une espèce de demi-urge qui tient quasiment de façon religieuse l'objet qui diffuse, qui irradie le concert. Réal La Rochelle, qui vient d'écrire un livre sur la radio et le Metropolitan Opera, a dit qu'à l'époque, on disait « irradier des programmes ». C'est intéressant aussi de faire ce lien-là. Donc, l'imaginaire était assez capté par les ondes et on les représentait avec tout ce que l'imagination pouvait faire de mieux. Et c'était ce qu'on ressentait vis-à-vis, en fait, le premier médium de grande portée électronique que les humains n'avaient jamais connu. C'était tout nouveau, cette dimension de la réalité. On revient à Guy Moffett. On est au début des années 30. Et Guy Moffett, avant d'arriver à la radio, il fait un très, très bon détour par le théâtre. Encore là, ça vous dit où il s'est alimenté et qu'est-ce qui va faire qu'il est devenu ce qu'il est. C'est Estelle Moffett, sa sœur, qui est la personne qui va lui mettre le pied à l'étrier. Estelle Moffett, au 23-23 rue Coursol, donne des cours de diction. Et elle voit dans son frère un potentiel de théâtre. Il y a 15-16 ans, Guy va faire un cours de théâtre à l'école de Jeanne Maubourg, une Belge qui donne des cours. Il va tout de suite être remarqué parce qu'il a beaucoup de talent. Il va être remarqué par qui? Par les premières générations d'hommes et de femmes de théâtre du Québec. Photo magnifique, Guy Moffett, adolescent, 15 ans, 16 ans, avec sa sœur Estelle, qui avait 11 ans de différence avec lui. Le jeune premier au théâtre. Voilà. Avec sa signature, sa dégaine, les Fred Barry et Duquesne fondent en 1930 le théâtre Stella. Un petit théâtre pendant la crise qui va rassembler toute une génération de vieux comédiens, les sœurs Giroux, etc., pour faire quelque chose. Malgré ces temps de crise, il s'installe un peu partout, sur Sainte-Catherine, sur Saint-Denis peut-être un peu aussi. Et Guy Moffett est leur jeune premier. Il jouait une pièce par semaine, le Stella. Imaginez, une pièce par semaine. Guy Moffett me disait qu'il répétait la nuit la pièce de la semaine prochaine. Et que lui, quand il avait fini la répétition puis qu'il s'en revenait rue Coursol, il dit, je passais devant les vitrines un peu somnambule. Puis il dit, je me voyais encore tout maquillé. On n'invente pas ça. C'est comme ça que ça se passait. C'était une dure école, mais bon. Guy Moffett jouant Maluron de Félix Leclerc au Compagnon de Saint-Laurent. Quelle belle photo. On n'est plus dans les années 30, évidemment. Là, je fais un accro à ma linéarité, mais bon. Ici, je ne sais pas si vous reconnaissez cette comédienne, Thérèse Cadorette, décédée il y a quelques années à peine. C'est elle qui m'a prêté ces photos qu'elle avait encore, parce qu'elle a toujours été très près de Guy Moffett, parce que son mari et la femme de Guy Moffett étaient frères et sœurs. C'était assez naturel au début de la radio qu'on allait piger dans le bassin du théâtre pour faire nos contenus. Ça, c'est Guy Moffett en 1932, alors qu'il arrive assez naturellement, parce qu'il est déjà remarqué au théâtre, à la radio, pour faire un peu lire des poésies, ce genre de choses. Et, mon Dieu, dire que c'est ce jeune homme qui va faire plusieurs révolutions dans les 50 années qui vont venir à la radio, il y a quelque chose de fascinant à regarder cette photo-là. Qu'est-ce que c'était la radio dans les années 30, quand Guy Moffett est arrivé? Ben, c'était une radio où il y avait beaucoup de musique. Les orchestres venaient en studio. Les studios, celui-là de CKAC, avaient un orgue Casavant. Monsieur Jacques-Narcisse Cartier organisait des concours de fanfare, les autobus. On débarquait, vous l'avez vu avec Barack Obama, là, ces défilés de fanfare, mais là, ça rentrait dans le studio. Et ça faisait vendre des postes de radio aussi. Parce que les gens, mon Dieu, on leur faisait des publicités. Vous pouvez écouter à domicile des concerts. Et il y a quelqu'un qui m'a dit la semaine passée, je suis allé dans une résidence de personnes âgées faire cette conférence, qui m'a dit, mon père a travaillé pour CBC et il allait dans le parc La Fontaine avec une petite radio. Et les gens du parc se rassemblaient autour de lui pour écouter à distance un concert. À l'époque, tout ça, là, c'était neuf, c'était des nouveautés. Et il savait quelque chose de fascinant aussi. Et Guy Moffett, il va vite passer des petites récitations de poésie et ce genre de petites performances mineures. À des postes de commande très, très jeunes, on se rend compte chez ce jeune comédien, on dirait que comme il est né avec la radio, il la sent, comme quand une génération naît avec une technologie, la sent de l'intérieur et on lui confie toutes sortes de choses. Il va faire la réalisation d'une émission de musique, évidemment, et il va faire des séries sur les grands compositeurs. Et c'est un peu un homme orchestre. Et il touche un peu à toutes sortes de choses. Vous le voyez, c'est dans les mêmes années, un petit peu plus tard, avec le premier Séraphin, comme on l'appelle, Charlin, sa sœur Estelle, Donalda, parce que c'est lui qui va réaliser le premier « Un homme et son péché » à la radio, en 1939. T'sais, la radio se promène... se cherche un peu des contenus, des avenues, et met le pied sur ce qui va s'appeler des radio-romans. Et ça, c'est quelque chose dans l'histoire de la radio. Et que Guy Moffett ait participé à la naissance de ça, c'est déjà, pour cet homme-là, un fait d'armes très, très, très important. Moi, j'ai coutume de dire que si Guy Moffett était décédé après avoir réalisé Un homme et son péché, déjà, il serait passé à l'histoire. Mais Dieu sait qu'il en a fait des choses après. Là, ce que je vous propose, c'est d'écouter Guy Moffett, Claude-Henri Grignon, Fernand Seguin, à l'émission du Sel de la semaine, raconter en 1968, donc bien longtemps après, comment ça s'est organisé, les débuts d'un homme et son péché, comment les deux acolytes se sont rencontrés, comment Claude-Henri Grignon, il ne le dira pas là, mais c'est quand même ça, Claude-Henri Grignon, qui sachant que sa cousine, Germaine Guevremont, avait réussi à faire jouer son livre, Le Survenant, à la radio, il dit « Moi, je veux que mon péché joue à la radio. » Puis il avait l'autorité, le père, beaucoup même. Et puis il dit à des proches « Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait me faire ça? » Bien, il y a Moffett. Il semblerait que c'est un jeune qui est plein de talent. « Envoie-moi-les. » Et c'est ça que Guy Moffett va raconter ici. Monsieur le technicien, vous allez me donner un petit noir. On y est. Alors, vous pouvez remettre l'image, on repart.
1938, le déserteur. Et l'homme qui est là, c'est oui. Monsieur.
Si on le regardait un peu, Guy d'un Moffett, peu près.
Il dit, il faut une autre main. Il me prenait pour Balzac.
c'est quand même Guy Moffett, il faut bien le reconnaître, qui, en 1939, a été le premier à transposer en son, en radio,
exact.
Ce roman.
Exact.
Et puisqu'il est ici, Guy, dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de Claude-Henri Grignon et comment avez-vous fait cette transposition, rapidement?
J'écoute parler M. Grignon avec infiniment de plaisir, mais j'ai entendu bien d'autres discours dans son grenier il y a 30 ans.
C'est assez bavard, hein?
Mais il ne parlait pas mieux que ce soir. Mais il parlait de source, il parlait d'abondance, il mimait tous les personnages, il était tous les personnages, et moi j'étais électrisé. C'était vraiment la merveille du monde. Il me présentait à ses amis Léon, le mendiant ingrat.
Léon Blois,
Léon Daudet, les Camelots du Roi, Maurras, René Benjamin, Raoul Ponchon, Barbé de Révilly. Nous avons passé des soirées, des nuits merveilleuses. Et encore, quand on se promenait en carriole, en pleine tempête de neige. Alors là, c'était toute la Révolution française qui y passait. Et la Révolution québécoise avant la lettre.
Mais quand vous vous êtes mis au travail là, pour décider, parce que c'est ça le travail d'adaptation radiophonique, quelle serait la voix des oui. personnages qui étaient dans le roman, comment avez-vous procédé? C'est lui qui vous a dicté ses volontés ou si c'est vous qui l'avez convaincu?
Il m'a dicté ses volontés, mais j'étais amoureux du roman, j'étais amoureux de la famille Grignon, de Sainte-Adèle, des Pays d'en haut. Alors, y avait de quoi faire un bon feu, hein? Je ne me faisais pas tirer l'oreille. Mais on dit une autre des belles histoires des Pays d'en haut, parce qu'effectivement, il devait y en avoir plusieurs. Il y a eu d'abord Le Déserteur, que j'ai eu l'honneur de réaliser pour M. Grignon. Ensuite, ça devait être Un homme et son péché. Mais on ne devait pas s'arrêter là, hein? On devait ensuite réaliser La Piste, Le Seigneur de Cochon, L'Héritage, parce qu'il a un tas de nouvelles, un tas de romans dans ses cartons. Et on pourrait tourner des télévisions et des films et des radios encore pendant un siècle. Alors, je me présente un soir, je dois à Arthur Prévost, le vétéran journaliste du Petit Journal, de connaître M. Grignon. Alors je me rends à Sainte-Adèle, et puis il me présente à sa femme Thérèse, et puis je fais le tour du propriétaire, puis on grimpe au grenier, et puis il me présente à ses amis, tous les grands auteurs. Et puis je vois sa table de travail, je vois vraiment son arsenal. Et puis on en vient au fait. Il dit, mais en fait, vous avez lu le roman, vous avez lu la nouvelle, qu'est-ce que vous en pensez? J'en suis amoureux. Bon, bonne chose de faite. Il dit, comment pourrais-tu coller un acteur, coller un personnage, et quels acteurs choisirais-tu parmi ceux que tu connais? Il dit, comment d'abord te représentes-tu l'avare, et quelle voix entends-tu quand tu entends parler l'avare? Alors là, j'ai eu une expression un peu rustique. Vous allez voir que nos conversations, à cette époque-là, déjà, ne manquaient pas de sel. Je dis, Monsieur Grignon, pour moi, la voix de l'avare, c'est une terrine de lait bleu surie au soleil avec des mouches dedans. Lise sa bouche, elle a des dents cantées les unes contre les autres, ainsi que des pierres tombales d'un cimetière abandonné. Alors là, Monsieur Grignon éclate. Je me suis dit, ça y est, j'ai manqué la série. Mais non, il était content. Il dit, baptême, tu l'as. Je ne sais pas comment résonne ce mot baptême ce soir à la télévision.
Ce studio en
mais ce soir-là, dans le Nord, très reculé, parce que la Transcanadienne n'existait pas, la télévision n'existait pas, il faut dire qu'il n'y avait pas de caméra dans son studio. Il ne parlait pas mieux que ce soir, mais il parlait autrement. Ce mot-là m'a électrisé. Il y a eu une résonance extraordinaire. À peu près comme quand vous frappez la table d'harmonie d'un piano et que le son se répercute à l'infini à travers la forêt ou comme dans une église. Ou alors comme quand Pablo Casals demande de l'âme à son violoncelle, vous savez, dans ces sonneries merveilleuses de Don Quichotte de Strauss. Et je ne m'éloigne pas tellement du sujet, parce que la prière familière de M. Grignon devait être à cette époque-là, il était pamphlétaire, « Don Quichotte qui êtes aux cieux, donnez-moi ma colère quotidienne. »
Mais vous ne le croirez pas. Vous ne le croirez pas, mais quand en 1994, moi, j'ai rencontré Guy Moffette pour la première fois sur la rue de Selle, à côté du Collège Brébeuf où il habitait, dans la vie privée, il était en représentation aussi. Il me faisait un petit spectacle. Et je vous avoue que moi, je suis arrivé bien structuré avec mes questions. Et j'ai su par la suite qu'il ne fallait pas l'interrompre. Il fallait le laisser parler. Les réponses viendraient et j'avais qu'à les ramasser. Mais il y avait quelque chose de décontenançant. Mais en même temps, c'est un homme particulier. Hein? C'est un homme particulier, même dans la vie de tous les jours. Mais c'est un homme attachant, attachant. Quand on pouvait être près de lui, c'est un homme tellement transparent, tellement poète, qui nous emmène, qui nous construit des mondes constamment. Vivre avec un être comme ça, il faut quand même dire que dans le quotidien des choses, c'est peut-être pas si facile que ça. Ça ne l'était pas. Et il avait 7 enfants qui m'ont fait. Ils ont même eu 8. Probablement qu'un enfant est mort jeune. Mais c'était quelqu'un, on le sentait parce qu'à la radio, c'était canalisé tout ça. Mais c'était quelqu'un de particulier. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter un peu sur cette période des radioromans. On va revenir à nos images. Donc, monsieur le technicien, un petit peu noir sur écran. Alors, on y est. La fièvre des radioromans embrase le Québec. Petite coquille, excusez-moi, ça se glisse partout. Le curé de village, en 1935 à CKAC, ce fut le premier radioroman à se faire. Mais c'est juste le début d'une flambée qui va se répandre dans toutes les radios. Entre 1939 à peu près jusqu'à 1955, il va y avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de radioromans qui vont être sur les ondes. Il va en avoir une douzaine par jour dans certaines radios. Guy Moffett a la chance d'avoir joué dans ce premier radioroman en 1935 qui a duré 3 ans. Il jouait Noirot Toupin. Un, un jeune homme rigolo. Il semblerait qu'il avait un rire très particulier, noir ou toupin. Et c'était écrit par Robert Choquette. Robert Choquette, c'était le même que la pension Velder et qui a été à la radio très, très prolifique aussi. Choquette et Moffette, c'est des bâtisseurs à la radio. Les radioromans, comme je vous le dis, il y en a eu des dizaines, une véritable flambée. Ça, c'est un setup tout à fait conventionnel. Les techniciens en régie, où se trouve aussi le réalisateur, derrière le bruiteur, dans le coin. Et reconnaissez-vous certains comédiens? Jean Lajeunesse en haut. Hein? L'autre côté, Roland Bédard. Je ne suis pas en mesure de vous dire de quel radioroman il s'agit. Mais j'aimais cette photo parce qu'elle reconstitue bien ce qui se passait. Quant aux nombreux radioromans qui ont eu lieu au Québec, j'ai demandé pour le plaisir à Diane de nous en faire une énumération.
Grande sœur, Jeunesse dorée, Madeleine et Pierre, La pension Velder, Rue principale, Le survenant, Les ploufs, La rumba des radioromans, J'ai un cœur à chaque étage, Faubourg Amelas, Vie de famille, Rue des pignons, Yvan l'intrépide.
Dans la période de questions qui va suivre tantôt, il vous est sûrement venu des titres en tête, vous nous les apporterez. Pourquoi les radioromans furent-ils si importants? Ont-ils capté le Québec? Parce que c'est la première forme de représentation de nous-mêmes qui s'est faite à une si grande échelle. Parce qu'on n'a jamais été reconnus, les Québécois, comme un grand peuple de liseurs, hein? On dit souvent qu'il y avait un almanach, tu sais, dans la maison. Puis moi, mon grand-père, Gélina, a appris à lire dans les manuels scolaires de ses enfants. Et évidemment, il y avait des familles cultivées, il y avait des familles qui voyageaient, il y avait des familles riches. Mais on était un peuple rural, puis beaucoup rural quand même. Et quand la radio est arrivée, dès le début des années 40, il y avait 70 % des gens au Québec qui avaient un poste. Et ça coïncidait, ça, les années 40, avec le début de la fièvre des radioromans. Et quand tu as un homme et son péché, tu as le survenant, tu as les ploufs, tu as tout ça, eh bien, là, c'est des images qui sont données, qui nous sont données, qu'on retrouve quand on va au théâtre, qu'on retrouve en lisant des livres. Mais comme ces choses-là ne sont pas à grande échelle dans le Québec, et c'est la radio qui va faire ça, on dirait que les gens ont été sonnés de se voir, de s'aimer, de s'apprécier, de reconnaître leur parler, leurs coutumes, leurs souvenirs. Et ça a été quelque chose de... À la radio, après tout l'engouement de la musique, ça a été très, très fort. Évidemment, en 1952, quand la télévision est arrivée, la télévision a grignoté le pouvoir de la radio tellement que quelques-uns des meilleurs radioromans vont faire le saut. Hein? Le survenant, Rue des Pignons, Les Ploufs, Un homme et son péché, à la radio. Mais en continuant quand même à... Un homme et son péché s'en va à la télévision, mais il va continuer quand même à la radio. C'est quand même étonnant, Un homme et son péché, 1939-1962, 23 ans. La télé, 1956-1970, 14 ans. Hey, ça se chevauche. Scène typique d'un enregistrement d'Un homme et son péché. Moi, j'ai toujours pensé que Estelle Moffette était habillée là, comme si elle était à la télévision, mais en fait, c'est probablement qu'elle se prépare à courir à CKAC pour aller jouer dans un autre radioroman est déjà prête à partir. Les bruiteurs. Guy Moffett disait que le protocole, un peu la préparation des radioromans, c'était évidemment, on faisait une sélection des gens, des comédiens, on faisait des répétitions avec les textes, mais à un moment donné, il fallait qu'ils passent chez le bruiteur. Il y avait un gros département de bruit à Radio-Canada, ils s'en allaient là, avec une liste, puis ils allaient chercher tous les bruits qu'ils avaient besoin. Deux des grands bruiteurs de Radio-Canada, Alfie Loisel et Damon. Et j'ai crois comprendre que Alfie Loisel serait encore vivant. Mon Dieu! Chapeau! Parce que Guy Moffett disait que les bruiteurs, il disait c'était des poètes, il disait c'était des magiciens. Les bruiteurs créaient l'enveloppe sonore un peu des radioromans. La distribution d'un homme et son péché, il a raconté un peu avec Claude Grignon comment un peu ça s'est fait, comment tu vois la voix de la VAR, etc., etc. Puis là, ils se sont même promenés dans les cimetières ensemble. Puis ils regardaient les pierres tombales, ils cherchaient des prénoms. Ça, je vous la donne parce que cette image-là, il y a là toute une génération d'acteurs, de pionniers du théâtre au Québec, que Guy Moffett a eu la chance de connaître quand il était tout jeune premier au Stella, et dire que quelques années après, il va les engager, ces mêmes vieux comédiens, lui, à la radio, puis il va devenir leur patron, puis ça ne se passera pas bien nécessairement tout le temps, parce qu'on ne fait pas du théâtre comme on fait de la radio. Hein. Fait que ça frustrait certains acteurs de se faire dire « Mais arrête de projeter, tu parles dans un micro ». Guy Moffett avait l'intelligence de ce médium, mais pas les vieux acteurs qui ont passé leur vie à projeter dans des salles de théâtre. Et il y avait un choc de génération là, mais le jeune avait pu aller chercher des choses déjà. Ce qui est intéressant, c'est de se rappeler les noms de ces premières distributions-là. Diane.
Fred Barry, Juliette Huot, Albert Duquesne, Amanda Allery, Albert Cloutier, Eugène Daigneault, Guy Carmel, Juliette Béliveau, Armand Leguet, Mia Rides, Bella Ouellette, Louis-Philippe Mercure, Auguste Cercy, Julien Lippé, Aurore Alice, Alfred Amiro, Yann Squire.
Moi, je me souviens de Juliette Béliveau qui jouait dans Quelle famille? Et à toutes les fois que j'entends ce nom-là, ça résonne pour moi quelque chose. J'étais jeune, j'écoutais ça. Mais je me suis dit que tous ces noms-là, ça résonne beaucoup pour vous aussi. Vous les avez encore connus sur la fin de leur vie, mais vous les avez quand même entendus. C'est intéressant, on dit, ça c'était notre premier Séraphin. C'est quelqu'un de l'extérieur, il nous dit, oui, mais il y en a-tu eu plusieurs? Mais il y en a au moins deux, il y en a au moins trois. Et Guy Moffett m'a raconté comment ça s'était passé, le casting d'Hector Charland. Il l'avait connu dans le cadre du Stella. Il dit, c'était quelqu'un d'un peu à part, qui se tenait un peu en retrait et qui, lorsqu'on faisait des pauses, prenait son paquet de cigarettes, sortait une cigarette, la cassait en deux, mettait la moitié dans son paquet et fumait la moitié. Il dit, j'ai vu ça, moi. Puis il dit, il avait tendance à se gratter le pantalon. Puis il dit, je ne sais pas si c'est charitable de vous dire ça. Je ne sais pas si vous allez l'écrire, mais ça m'a amené à penser que ces traits-là pouvaient coller à mon avare que j'avais à distribuer. Et c'est un peu une anecdote, mais c'est le fun de voir. On fonctionne à l'intuition quand on fait un casting. Et c'est un peu ça qui s'était passé. Ça, c'est les rencontres qu'ils avaient à Sainte-Adèle. Claude-Henri Grignon, sa femme, et Guy Moffett. François Bertrand. Celui-là, je suis sûr qu'il est encore vivant. Il reste à côté du métro Sherbrooke, en haut. À mon sens, il est né en 1912. Il aurait 97 ans cette année. J'y ai parlé il y a 2-3 ans. Et lui, ben, c'était un homme et son péché. Les belles histoires des pays d'en haut. Et comme tout était inventé quand on a créé les radioromans, Guy Moffett un jour a dit à François Bertrand, « Ton ouverture, tu vas la dire devant les cordes d'un piano. Ça va créer un effet de résonance. Ça va créer un effet dramatique. On n'a pas les techniques pour créer de l'écho encore, mais ça, ça va nous donner quelque chose. » Alors, c'est un peu comme ça que François Bertrand a dit le début donc d'Un homme et son péché. Et Gilles Pelletier disait qu'il semblerait que les semaines d'après, tout le monde, les autres réalisateurs de Radio-Canada, avaient la tête dans le piano. Un jour, il me dit au téléphone, j'ai dit, Monsieur Moffett, vous étiez de véritables pionniers. Il m'a dit ça comme ça. On était les premiers, on défrichait le terrain, on labourait à notre manière, on labourait les ondes. Et c'est ce que j'ai retenu comme titre de mon livre, parce qu'il me semble que ça disait tout, cette expression-là. À ce stade-ci, ça serait trop dommage qu'on n'écoute pas 5 minutes d'un épisode véritable d'Un homme et son péché à la radio en 1942. Une vieille émission qui, la série avait 3 ans à l'époque, ça m'a été prêté par la Phonothèque québécoise qui loge juste à côté, dans les mêmes locaux que la Cinémathèque et dont la fonction est de conserver du patrimoine sonore sous forme de disques, sous forme d'anciennes émissions. Il y a des chercheurs qui ont légué leurs fonds aussi. Ils ont un site web magnifique. Si vous voulez poursuivre l'histoire de la radio après cette conférence, allez sur leur site. Toujours est-il que j'ai donc une vieille émission et on va l'écouter. Le contexte de ça, c'est ceci. Imaginez-vous que ça va être une scène d'Onalda Séraphin. Donalda revient de chez sa cousine. Elle était passée 3 jours et on l'a gâtée, la Donalda. Tellement gâtée, a tellement tout mangé que quand elle est revenue, elle dit à Séraphin, elle dit, j'ai été tellement bien reçue, mon mari, j'étais tellement bien reçue, maintenant ça va être à notre tour d'y recevoir. Et Guy Moffett, un peu Guy Moffett, que je lui ai dit, Séraphin ne l'entend pas ainsi. Alors, un noir sur écran, s'il vous plaît.
C'est ça qui me donnait des ailes. Mais,
excusez, petite erreur d'aiguillonnage. Je vous le dis, ça va gricher. Mais juste...
Un homme et son péché. Une autre des belles histoires des pays d'en haut.
Le pire est fait.
La chère Donalda, la pauvre Donalda, est revenue de Sainte-Agathe le cœur tout rajeuni d'espérance et d'amour de vivre. Ce fut pour elle une véritable détente.
C'est vrai qu'elle est revenue à Brochard, mais ça m'a pas coûté de scène. Iselda est pas fine. C'est le moment.
Voilà de quoi satisfaire l'avare. Mais ce matin, en mangeant l'éternelle galette de sarrasin...
Je peux pas croire, ma vieille, que je suis Iselda a envie de venir se promener cette...
Toujours pas un crime, mon vieux. Quand même qu'on les recevrait, pour une fois.
Je sais pas qui t'ont perçu. T'es venu grosse. Ouais, ça n'empêche pas que ce sera pas payant pour nous autres s'ils viennent passer une semaine ici.
Zelda m'a pas parlé d'une semaine. Elle a dit de même qu'elle viendrait avec son mari dans le courant du mois de septembre.
Elle t'a pas dit si ça serait pour longtemps?
Ça m'a tout l'air qu'il viendrait pour une couple de jours.
Ouais. J'aurais dû lui dire qu'on était traite. C'est bien difficile de faire coucher dans la chambre des étranges en haut de l'autre côté.
Il va pas frais parce t'inquiète. Il me semble qu'il sera bien de l'autre bord.
Ouais. On le sait bien. Il faut des couvertures.
Il y a un matelas, des oreillers, tout. Je te dis, mon vieux, qu'on peut y recevoir, correct?
Du monde, ça se couche toujours. On finit par s'arrimer, mais... C'est bien du trouble, puis ça coûte cher.
Si tu savais comme j'étais bien reçue, Jésus.
Pas de valeur, les autres, ils sont riches. Le mari d'Iselda fait de la femme de l'eau. Il vend, puis il loue des maisons à des doutes de la ville. Ce monde-là, il faut qu'il mange. Il le vend tout, du lait, des œufs, de la viande, de la crème. Il est placé extra pour s'enrichir.
C'est un peu comme toi avec Mme Larrivée.
Prudence, c'est rien qu'une, ça. Le mari d'Iselda, il y a ça à la douzaine, lui, des prudences.
Je sais qu'ils font de l'argent. Ça paraît dans les eaux. Il n'y avait rien d'assez beau pour moi, puis d'assez bon.
Ouais. Ça ne nous arrange pas, nous autres. S'ils viennent manger ici pendant une semaine.
C'est difficile pour moi de dire « venez pas ».
Quand on veut le dire, on le dit. Il n'y a rien qui se dit pas. C'est gênant, des fois. On dit pareil, puis on est débarrassé. La soeur, on a l'air faim. Il va bien falloir qu'on les reçoive.
Une couple de jours, au moins.
Es-tu capable d'arranger ça pour une couple de jours? Pas plus.
Tu comprends que je vais lui dire qu'on n'est pas grandement.
Ils vont bien s'en percevoir, s'ils sont pas fous. L'autre côté n'est pas fait pour recevoir du monde. C'est bien rare qu'on y va. Ouais. C'est bien pour dire qu'on est mieux de ne pas avoir d'amis dans le monde puis pas de parents. Ça coûte cher que d'or, par exemple. Des fois, je pense à ça et puis j'aimerais ça pour être connu de personne d'autre que celui qui fait affaire avec moi. Pas d'amis, pas de parents. On serait si bien, on vivrait d'igloo, puis ça coûterait pas cher.
Parle donc pas de même, mon vieux. T'as été bien fier d'avoir des parents dans ton jeune âge.
Il n'y a personne qui m'a aidé, moi. Chez nous, on vivait tous seuls. On se mêlait pas des affaires du voisin.
Quelle couleur, hein? Quelle couleur. Imaginez 12 comme ça par jour. Ils avaient pas tout ce relief-là, mais il y avait... Et comme ça se déroulait sur plusieurs années, tout ça, imaginez la fidélisation qu'on pouvait avoir avec le public avant que la radio, avant que la télé arrive. Ça devait être extraordinaire, extraordinaire. Guy Moffett dit, il semblerait que c'était tellement populaire que vous arriviez pour prendre un taxi, puis le gars du taxi disait, non, moi, là, à 7 heures, j'écoute le péché, puis je vous prends à 7 heures et quart. Il y avait que les gens étaient vraiment liés à ça. Comme je disais tantôt, si... Cet homme-là était décédé après avoir réalisé ça, avec ce que c'est devenu. Parce qu'il a réalisé Un homme et son péché pendant 6 ans. Après ça, il a passé la main à quelqu'un d'autre. Parce que pendant ces années-là, Guy Moffett a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, s'il était mort, ça aurait été déjà quelque chose. Mais il a fait énormément d'autres choses et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. C'est un homme, n'oubliez pas, qui avait 3 chapeaux. Acteur, animateur, réalisateur. Et c'est un homme qui fut important parce qu'il a été de plusieurs moments fondateurs de l'histoire de la radio et de la télévision. qu'un même homme se soit placé, ait été à l'endroit où il a été successivement pendant une vingtaine d'années, à des endroits clés pour le déploiement de notre culture, c'est assez extraordinaire. On va revenir à nos images et vous allez en avoir pour votre argent. Alors, on peut faire un retour sur image. Trois chapeaux et six moments fondateurs. Regardez ça. Guy Moffett, en plus d'avoir contribué à créer avec Robert Choquette et les autres les radios romans, qui est un premier moment fondateur, c'est lui qui va imaginer à la radio des émissions de 10 jockeys. C'est-à-dire, hein, on fait tourner des musiques et puis on discute là-dessus, commentaires et tout ça. Et on le voit, il a fait une infidélité à Radio-Canada pendant 2 ans, il est allé à CKVL. Et il a réalisé là la parade de la chansonnette française, qui est l'ancêtre du cabaret. Ça n'a pas le déploiement du cabaret du soir qui penche, évidemment. C'est beaucoup plus léger. C'est très léger, même. Mais déjà, cette façon d'être animateur avec des disques, ça n'existait pas comme ça. Et Guy Moffett a mis son doigt là-dedans. En train de préparer ses émissions, ça a dû être une... Il avait la clé de la discothèque à Radio-Canada, passait ces nuits-là. Puis il faisait ses choix de disques aussi comme ça. Il travaillait tard le soir, allait manger des spaghettis chez Dad Giovanni à 4 heures du matin. Guy au cinéma, évidemment, laid comme il était, il n'y avait quasiment pas d'ouvrage. Mais non, le cinéma, les premiers films de fiction, Le Père Chopin, tourné dans les Laurentides, 1949, Guy Moffett va jouer là-dedans. Tu sais, c'est quelqu'un, c'est l'acteur, c'est l'homme de radio, c'est le réalisateur d'Un homme et son péché, il est au cinéma. Que c'est beau d'ailleurs, hein? Quels beaux habits. Au théâtre, on a vu un petit peu tantôt Stella, Compagnon de Saint-Laurent. Au Compagnon, il va faire à un moment donné une pièce de Rabelais, Picrochol. Et le voici. Il semblerait qu'il était très bon. C'était une espèce de pièce, un peu un one-man show, là. Et puis, il tirait son épingle du jeu. Fin des années 40, début des années 50, tout ça. La radio continue pendant ce temps-là. La parade de la chansonnette, tout ça, ça va en parallèle. À la chanson, très important, Guy Moffett, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication. En 51, 52, 53, il réalise une émission qui s'appelle « Baptiste et Marianne ». Moitié chanson française et moitié auteur québécois. On ne voulait pas faire tourner les auteurs québécois à la radio. On disait que ce n'était pas beau. Quelqu'un avait même dit que Félix Leclerc devrait arrêter de chanter. On devrait y couper les deux mains pour qu'il arrête de jouer de la guitare. Hein? C'est Victor Barbeau qui a dit ça. Il aurait sûrement pas voulu retirer ça, mais ça a été dit. C'est dire qu'on avait de la misère à s'aimer aussi. C'est paradoxal parce qu'on aimait les radioromans, mais nos artistes, là, quand on est jaugé avec Paris depuis si longtemps, c'est difficile de revenir au terroir puis de dire que nous-mêmes, on a un certain panache. Mais l'autorité de Guy Moffett a fait que ça a pu se faire, ça. On a pu faire tourner ses auteurs à la radio. Raymond Lévesque, Jacques Blanchet, tous ces gens-là, Lucille Dumont, ça a tourné à la radio. Et on a un bel aéropage, là. Jean-Pierre, Félix, Monique Lérac, Gilles Vigneault, Paul de Margerie au piano. Et, mon Dieu, tout ça s'animait. Moment fondateur aussi. Parce que c'est là que la diffusion de notre chanson a pu se déployer. Moment fondateur que l'on ne dit pas, à peu près pas, c'est que si Jacques Canetti a mis Guy Moffett, a mis Félix Leclerc au monde en France dans la chanson, au Québec, c'est Guy Moffett qui l'a mis au monde. Donc, il y avait le diamant brut qui s'appelle Félix Leclerc. Félix Leclerc, à l'âge de 24 ans, travaillait à CHLN à Trois-Rivières, dans le poste de radio, prenait sa motocyclette, montait à Montréal, puis voulait se faire engager, faire jouer ses pièces de théâtre à la radio. Il arrivait que ça avait sa carreau, puis il brêtait dans le couloir. Jusqu'au jour où quelqu'un a dit, « Monsieur, je pense que vous rencontrez pas la bonne personne. » On l'amène dans le bureau de Guy Moffett, qui réalisait Un homme et son péché à ce moment-là. Il a levé la tête, il a vu Félix, puis il a dit, « Pourquoi tu ne m'as pas appelé avant, toi? Il me semble qu'on se connaît. » C'est devenu des amis intimes. Il l'a engagé tout de suite pour jouer Florent Chevron dans Un homme et son péché, le fils du forgeron. Il l'a présenté à tous les réalisateurs de Radio-Canada, au directeur de théâtre, au père Legault, et c'est pour ça que Maluron était monté au Compagnon de Saint-Laurent. Donc, tu avais le rat des champs, puis tu avais le rat de la ville, qui était Guy Moffett. Les deux ont fait une paire. Ils ont marié deux cousines. Ils ont été voisins à Vaudreuil. Cette photo a été prise par le petit Martin Leclerc, le premier enfant de Félix, dans le garage. Deux géants qui ne posent pas, qui jouent aux dames. Moi, c'est une photo qui n'arrête pas de me renverser. Et donc, pendant la première décennie, en fait, entre 1939 et Jacques Canetti, Félix, là, s'est déployé à la radio beaucoup, et puis... les deux se sont nourris l'un l'autre. Ils ont créé une troupe ensemble qui s'appelait Viens Leclerc-Moffett, VLM. Puis ils ont joué différentes pièces, dont celle-là, qui était une pièce à sketch, qu'ils ont joué dans des salles paroissiales, etc., et qui ont amené en province. Bon, ils ont commencé à se déployer. Et puis, comme il fallait changer de décor souvent, Guy Moffett a dit à Félix, « Écoute tes chansons, là, chante-la donc entre les sketchs. » « Ouais, mais dis, je n'ai jamais chanté en public. Ben, chante-la donc. » Il chantait à la radio, Félix, mais il ne donnait pas de spectacle, rien. Alors, dans le programme de La Petite Misère, qui est cette pièce, on a... Chanson de Félix Leclerc, bientôt sur disque. Regardez les titres, Le Petit Bonheur, Notre Sentier, Moi, mes souliers. C'était chanté ça dans des salles paroissiales parce que Guy Moffett a insisté pour que Félix chante ça avec sa guitare. Et de fil en aiguille, on a fait un enregistrement de ça, un peu à l'insu de Félix Leclerc. Et quand Canetti est venu, c'est cet enregistrement-là qu'il a écouté. Et tout ça... Encore là, c'est intimement lié à Guy Moffett. Je dis, moi, que un des moments fondateurs de Guy Moffett, ça a été de mettre Félix quelque part en très, très bonne position pour démarrer. Pendant 2 ans, imaginez, il va faire la boîte à surprise. C'est quand même pas rien, ça. La boîte à surprise, ça, les gobelets, puis tout ce monde-là est sorti de cette boîte à surprise-là. Et l'émission fondatrice de tout un département à Radio-Canada, qui sont les émissions jeunesse, qui ont été, à une certaine époque, là, extrêmement glorieuses, ben Moffett est encore là. Ça, c'est entre 61 et 63. Et le dimanche soir, M. Moffett fait le cabaret. Puis le jour, il fait la boîte à surprise. Est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter? Ça éclate. C'est un talent qui a éclaté, qui a touché à tout, mais de façon importante pour un moteur qui fait démarrer des choses, qui lance des choses. Caravane, une autre émission de Guy Moffett. Maître de cirque. Le cabaret du soir qui penche. Nous y voici. 1960. L'émission qui va durer 13 ans. 1960, après tout ce qu'a connu Guy Moffett jusqu'alors, c'est beaucoup. Et en 60, la radio, l'auditoire, tout ça a changé. Et il y a une pression sur Guy Moffett pour, en fait, inventer d'autres choses. La radio continue à s'inventer. Et Guy Moffett n'a que 45 ans au début du cabaret du soir qui penche. Mais il a 28 ans de carrière. 45 ans, mais il y a une pression énorme sur ses épaules. Il dit, il y avait tellement d'attentes sur moi qu'on attendait de moi tellement que je réussisse dans tout ce que j'inventerais que j'hésitais beaucoup. Puis sa femme, Louise Vien, était très, très, très importante pour Guy parce que c'est quelqu'un qui doutait. Vous l'avez entendu au début tantôt, c'est un gars transparent, c'est un gars vrai, c'est un gars. Ça se peut pas qu'on ne doute pas, même si on est génial. T'sais. Alors, il a douté beaucoup, puis le cabaret, là, cette formule qui est en fait une synthèse de toutes ses influences. Hein. Tu as toute l'influence familiale de la grande musique classique, le jazz et tout ça. Tu as l'acteur qui va être capable, devant un micro, tout seul, dans une cabine, de faire créer des mondes. Puis tu as le réalisateur. Il fut maître réalisateur à Radio-Canada. Donc, il connaît toutes les combines techniques. Alors, il est en mesure, avec ces trois chapeaux-là, de créer une émission qui va amener quelque chose de nouveau dans le monde de la radio, c'est-à-dire les débuts de l'intimité. Une intimité entre un animateur et un public. Dire « je » en onde, ça, c'était neuf. C'était nouveau. Il fallait oser faire ça. Et Guy Moffett a créé une émission à son image, un cabaret, multiples influences. Et dire que tout ça, ça se passe entre 1960 et 1973, pendant que Jean Lesage dit maître chez nous, Paul Gérin-Lajoie révolutionne le système scolaire. Le frère Untel rentre dans le mur, fait brasser les choses. Le Québec prend la parole, se lève debout. Et le dimanche soir, pendant toute cette décennie, Guy Moffett accompagne le Québec. Une voix. Le Québec a pris la parole, Guy Moffett aussi. C'est la liberté. On peut rêver. Guy Moffett rêve. Fait rêver les Québécois. Tu sais, on décortique une société souvent en multiples courants individuels, mais tout ça, c'est toujours lié ensemble. Paul Gérin-Lajoie et Guy Moffett, c'était des amis intimes. Hein? C'est lié. Alors, le temps passe. Il faut regarder peut-être la plus belle archive de cette présentation. La seule, Guy Moffett, un soir de cabaret, reçoit Jean Ducharme dans le studio. Jean Ducharme qui fait une émission qui s'appelle « Aujourd'hui ». Et pendant que Guy Moffett fait son cabaret, durant les disques qu'il joue, il l'interroge sur les fondements de cette émission. On voit donc Guy Moffett faire son cabaret. Je ne veux pas briser vos images qui vous ont accompagné durant toutes ces années. Je ne pense pas que ça brisera quelque chose, mais là, on va le voir faire, puis on va retrouver l'être du début si sensible. Vous allez voir, il y a quelque chose de touchant. Noir, s'il vous plaît. On y arrive. Deux secondes. On l'a.
Le cabaret du soir qui penche. Hello, you out there. This is a night falling cabaret. Au microphone, l'oiseau de nuit. At the microphone, the night bird. Tout de suite, en commençant, c'est avec Yves Montand et cela fait Idylle phénoménale.
Quand j'ai croisé Lamartine, c'était par un beau matin. J'allais acheter des bottines et lui trouver très...
Je m'excuse, mais je dois vous dire là que présentement, là, j'ai le trac. Moi, ça me fait plaisir, il y a longtemps que je n'ai pas lu. Je m'en ennuyais. Quand on a le trac, on est plus tout à fait soi-même. On est presque un autre. Puis quand on a le trac, on a une chance de faire un peu mieux les choses. Le trac, c'est l'état de grâce, hein, c'est pour les funambules, pour les artistes, pour vous. C'est essentiel. Ce soir, ça m'a sorti, il entre, et puis, je sais pas si c'est le fait de la caméra, avec son rond chat, là, qui bondit, avec son grand prêtre, son diacre, son sous-diacre. En tout cas, tout ça, c'est de la magie, c'est merveilleux, jusqu'à la symphonie des bourgeois. C'est dommage que ces gens-là puissent pas voir ces choses-là. C'est tellement beau.
Et ce cabaret, dit, qu'est-ce que c'est pour vous?
On me demande parfois pourquoi vous n'enregistrez pas votre émission, c'est moins fatigant. Ben, ce serait pas bon parce que c'est triché. Et une émission parfaite enregistrée est moins bonne qu'une émission imparfaite comme ça, improvisée. Parce qu'à ce moment-là, on ne triche pas. Le cabaret du soir qui penche, deuxième soirée.
Guy, lorsque vous préparez votre cabaret, quelle est votre inspiration? Qu'est-ce qui vous motive dans le choix de vos disques et puis dans le choix de vos textes, enfin dans ce que vous allez dire aux auditeurs?
Le temps qu'il fait, la température, et puis le temps au pays, dans le monde, les événements, et puis en moi. Je peux faire ce métier-là, mais je peux difficilement en parler, je peux difficilement l'expliquer. Mais comme le choix des disques... Mais les disques se choisissent davantage que moi je les choisis. Des fois, un refrain sollicite, ou piaf, me passe par l'esprit, puis elle veut chanter. Alors, je l'accueille comme on peut. je ne sais pas comment vous dire, mais en tout cas, c'est du rythme, c'est de l'inconscient. Au cours de la semaine, si j'entends dans la cuisine chanter ma femme, fredonner une chanson, ah, je me dis, tiens, c'est une chanson qui va être chantée. Elle est dans l'air. Je sais pas.
Guy, on sait que vous êtes très près, très lié à Félix Leclerc.
Ouais. Soit,
est-ce que, par exemple, vous aimez faire jouer plus souvent Félix qu'un autre ou...
Oh, ben j'aime beaucoup Félix, oui. Et puis on l'a vécu, on a travaillé 20 ans ensemble, on a toute une histoire. Alors, il est assez normal que je fasse... Enfin, ces chansons me viennent. Excusez-moi.
Je vous en prie.
Petit hiatus On sentait qu'il n'était pas de bonne humeur. Il y avait un blanc, puis quand Guy faisait ses émissions de radio, tout était tellement organiquement préparé qu'il ne fallait pas qu'il y ait de hiatus comme ça. Toutes les chansons étaient enchaînées. Ce qu'il allait dire entre les chansons, évidemment, il se faisait des croquis et tout ça. Il improvisait à partir de là, mais il concevait les émissions de radio vraiment comme quelque chose où toutes les parties se parlent les unes aux autres et se répondent. Il y avait le temps de créer un climat. Ça durait 4 heures, le cabaret du soir qui penche. Encore là, ça a duré longtemps, 13 ans. En 73, ce fut la fin du cabaret. C'était remplacé pendant 3 ans par des émissions qui ont changé de nom. C'était les samedis de l'oiseau de nuit. Après ça, ça a été les dimanches au long cours. Et en 76, ça s'est terminé. Contrairement à Jacques Languérand, qui continue à 78 ans à faire ses 4 chemins, dans la même case horaire que Guy Moffett, d'ailleurs, Guy Moffett n'a pas eu une fin de carrière en douceur, comme ça s'annonce pour Languérand, finalement. T'sais. Guy Moffett, entier comme il était, à un moment donné, il s'est senti tassé à Radio-Canada. C'est normal, hein? Des générations changent. Et on lui donnait plus la clé de la discothèque pour passer la nuit dedans, comme il faisait avant. Ça, c'était plutôt bureaucratisé. Et il ne l'a pas bien pris. Et c'était la chicane. Et il s'est retiré de Radio-Canada à partir de ce moment-là. A fait une apparition en 81 dans une émission d'été, remplaçant Boucher Double, Chantal Joly, Jean-François Doré. Et puis, on a pensé que c'était fini. Il était jeune lorsqu'il a pris sa retraite, début de la soixantaine. Et là, il va se mettre à dessiner, écrire des poèmes et tout ça. Mais il est resté avec un vide, un manque, un sevrage de la radio. Imaginez qu'en 96, on entend parler que Guy Moffett revient à la radio. C'est-tu possible? Oui. Quelqu'un l'a convaincu de revenir il y a 81 ans. On va faire le retour de l'oiseau de nuit le samedi soir pendant 18 émissions. À 81 ans, on va ramasser les meilleurs extraits des anciennes émissions et ça va se faire à Radio-Canada. Lorsqu'il est décédé en 2005, c'est ça qu'on a remis en onde beaucoup parce que ça n'avait presque pas vieilli. Et les gens ont été très contents de ce retour inattendu. Mais c'est juste un Guy Moffett qui pouvait sortir d'un chapeau comme ça à cet âge-là et être aussi fidèle à lui-même. Parce qu'il avait tellement de poids, il disait encore sur ses épaules à performer, que revenir à 81 ans, s'il sentait qu'il n'était pas capable de le faire ou qu'il serait moins bon qu'avant, beaucoup de réticences. Mais il l'a fait. On va terminer, avant les questions, par quelques images. Je vous ai promis des dessins. Il y en a fait des centaines. Ce n'est pas encore vu, tout ça. Et bon, on espère que ça va sortir. Un noir sur écran. On va au dessin et aux poèmes et aux questions. Merci de votre patience. Retraite, poésie et dessin. Regardez. Lumière sur écran, s'il vous plaît. 1996, à l'instant qui rend hommage à la Maison de la culture Côte des Neiges, à l'oiseau de nuit. Petite fleur sur piano. Lucien Bouchard, 1996, fait chevalier Guy Moffett. Chez lui, sur la rue Bernard, à côté du Bilboquet, où il a mangé la crème glacée, dessinant. Photo prise par Mélanie Leclerc, petite fille de Félix. 89 ans. Autonome. dessin. Poème chez Stanké comme au cabaret du soir qui penche. Chez Beauchemin en 72, chanson pour garçons perdus, aux écrits des forges en 2004, le soir qui penche. Diane, ma pauvre Diane, je m'excuse en public, on a sauté des lectures pour entrer dans le temps. On va se reprendre, on va finaler nos choses encore mieux. Tu nous lis un poème de Guy Moffett et moi, je vais conclure.
Le poème s'intitule « Je n'aime pas attendre ». Je n'aime pas attendre, ni rien ni personne. J'en suis incapable, même pas l'inspiration. Surtout pas l'inspiration. Attendre l'inspiration. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous le demande. Non, à défaut d'elle, je commence sans elle. Je commence par sortir et me rendre sur ma page. Ou plutôt, je commence par descendre sur ma page. Je dis « descendre » parce que, quand m'apprêtant à travailler, je la regarde, je me sens à un haut point d'altitude. Je la survole, littéralement. Un papillon, un oiseau, la lune se posent. Moi, j'apagis. Une fois sur ma page, je regarde à droite, à gauche, en haut, en bas, j'en fais le tour, reviens sur mes pas, j'allais dire sur mes yeux, la trouve déserte, en tout cas bien blanche. Alors je me gratte la tête, comme un homme qui a entendu frapper à sa porte, l'ouvre et se voit en face de personne. Alors il dit « bizarre, j'aurais cru ». Dès que je jette les yeux sur ma feuille, je suis sur un balcon, je m'aperçois en bas sur la place. En bas, je suis tout petit, je suis pauvre. Le moi qui est sur le balcon, qui est riche et grand, lance un écu au moi qui est en bas. Et le moi qui est en bas se découvre, salue et part à l'intention du moi qui est sur le balcon son orgue de barbarie. À la fois mendiant et seigneur, voilà ce que je suis devant l'inspiration.
Un des plus bels hommages, à Guy Moffett, reconnaîtrez-vous cette plume? Salut à toi, grand Guy. Salut à toi, nocturne volatile, docteur Esgalipette et maître Escabaret. Maniaque, bien sûr, mais jamais dépressif. Inspirateur futé, moissonneur de poètes. Toi qui gobais tout ce qui faisait mouche et nous l'éparpillait aux quatre vents du soir. Farfadet farfelu, farfouineur de talent. Et verbeau promoteur de tant de chansonniers. Quand tu prenais ton vol, tes ondes nous touchaient. Ici, radio folie, radio poésie. Le soir pouvait pencher, tu restais vertical. Tu étais sur le toit et le ciel par-dessus. Oiseau de clair de lune, à la voix de velours, parfois mélancolie, plus souvent ironie, tu jasais, intarissable fou. Mais comment faisais-tu? Nous étions si nombreux, suspendus à tes lèvres. Ça devait être lourd. Bien sûr, tu t'en fichais, tu étais si têtu. Merci à toi, grand Guy, sorcier de l'émotion, surréalisateur, bout de feu, guéluron, musardeur amusé, espiègle enchanteur et surtout, oh, surtout petite fleur d'amour qu'on n'oubliera jamais. Marc Favreau. Mes amis, c'est là-dessus que nous nous arrêtons. J'espère que ces retrouvailles furent agréables. Et j'ai bien l'impression qu'on n'en a pas fini. On n'en a pas fini avec un homme et son péché, ça c'est sûr. Ça continue. Mais avec Guy Moffett, je pense qu'il fait partie de la mémoire collective. Et puis, merci à la Grande Bibliothèque pour avoir permis de faire résonner encore l'oiseau de nuit. Alors, vos questions?
Merci beaucoup, Luc Dupont. Merci, Diane Poirier. Vous avez évoqué au début, tout début, très rapidement, le déclencheur de votre intérêt, et sinon amour, de Guy Moffett au cours de l'écoute de l'émission de Robert Blondin dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de Radio-Canada. Alors, j'aimerais que vous en parliez un peu plus. Bon, vous êtes historien, vous êtes aussi, je pense, un homme sensible. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu des deux qui a joué, parce que, bon, Guy Moffett a un rôle important dans l'histoire de la radio. Alors, à vous la parole.
Je suis journaliste aussi.
Oui, journaliste aussi.
Et il s'est passé quelque chose, c'est que quand on est arrivé dans les années 90, moi, j'ai toujours été intéressé par l'histoire de l'identité au Québec. Et quand on est arrivé à la fin du 20e siècle, je me suis dit, ce fut un siècle très particulier, le 20e. On dirait que ce fut pour le Québec le siècle de toutes les naissances. Dans une foule de secteurs, on est né, les Québécois. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait refaire l'inventaire de ce siècle, sinon en choisissant dans des secteurs particuliers des locomotives et en les suivant, des gens qui ont traversé le siècle. C'était le cas de Guy Moffett. Des gens qui sont partis de l'ancien Québec et sont arrivés au nouveau Québec. En fait, de ces gens qui ont été nos porteurs de modernité, qui ont été des pivots aussi. C'est comme ça que le nom de Guy Moffett, pour moi, s'est imposé. Et surtout parce que je le voyais dans les biographies de Félix Leclerc, mais que je n'avais pas aucun livre sur lui. Et c'est comme ça qu'un jour, je l'ai appelé et qu'on s'est rencontrés. Et ma foi, de là, c'est tout un projet qui est parti, un projet qui va compter d'autres personnages. Le prochain, c'est le frère Untel, Jean-Paul Desbiens. Et j'ai intitulé mon projet « Modernaire ». Modernaire, tous ces personnages font partie du modernaire. Et ça, c'est un mot qui a été créé par Gaston Miron. C'est un mot, c'est un néologisme. Quand Gaston Miron est mort en 1996, il rencontre Lise Bissonnette au Salon du Livre. Il donne à Lise Bissonnette un papier qui contenait un poème inédit. Et quand il est décédé, Mme Bissonnette, qui était au devoir à ce moment-là, a fait des pages spéciales autour de Gaston Miron et elle a fait paraître ce petit poème inédit que Gaston Miron lui avait donné. Et il y avait dans ce poème-là le mot « modernaire ». Vampire, je me le suis accaparé. Et c'est devenu un peu le guide qui m'amène à revoir le 20e siècle sous cette enseigne. Voilà un peu comment les choses se sont passées. Alors, avez-vous des questions, des titres de radio-romans, des souvenirs particuliers? Avez-vous écouté des concerts dans des parcs autour d'une émission de radio? Avez-vous, autour de la radio, vécu des choses? Ou je dois vous laisser à votre méditation sur Guy Moffett.
Pensez-vous qu'on pourrait en fait citer le nom de Mario Giuliani en parlant de Guy Moffett? Mario Giuliani, le créateur de la section française du Montreal Theatre, Repertory Theatre, qui, bon, d'après les mots même de Guy Moffett, auquel j'ai eu le plaisir de parler une fois, m'a dit « j'ai une véritable vénération pour lui, qui m'a considéré comme son dauphin ». Or, moi, je constate, enfin, sans faire de reproches, que ce Mario Giuliani, qui a été un véritable géant, même s'il a en fait joué ce rôle pendant seulement cinq ans avant d'être interné pendant 3 ans, pendant la dernière guerre mondiale, bon, qu'il a été complètement oublié. À peine on se souvient de lui dans certains livres consacrés à l'histoire du théâtre. Tandis que dans toutes les biographies de Madame Suteau, enfin, Judith Jasmin, il y a plusieurs références à ce personnage assez extraordinaire, qui était Mario Giuliani.
Ben, monsieur, cette conférence vous a donné l'occasion de venir au micro nous dire qu'il y a un manque. Il y a donc un manque dans la mémoire collective parce que personne ne se serait arrêté jusqu'à maintenant à raconter l'histoire, j'en doute pas, fort importante de ce personnage. Ben, c'est que ça reste à faire. Et il faut le faire.
Non, mais ce n'était pas dans l'esprit polémique, justement, ce que vous venez de dire.
Je ne sens pas ça du tout polémique, mais je sens que vous mettez le doigt sur quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a des personnages qui, pour toutes sortes de raisons, on dirait, passent dans les filets de la mémoire, puis ne sont pas retenus. D'autres sont célébrés. Et moi, quand je me suis intéressé à Guy Moffett, ben, c'était un petit peu ça. Je le voyais dans des biographies, mais je me disais... Puis je le découvrais, puis je découvrais tout ce que je vous ai communiqué ce soir, parce que je ne suis pas dans la même génération que lui. Moi, je ne l'ai jamais écouté directement. Guy Moffett, c'était en 86 avec Blondin que je l'ai écouté. Alors là, je trouvais étonnant qu'il n'y ait rien sur lui. Même étonnement que monsieur-là. Et je pense que, bon, c'est le signal qu'il faut qu'il se fasse quelque chose. Vous l'avez dit en public, bravo. Alors, je vous laisse à votre méditation. Ah oui, en sortant, ramasser des feuilles, c'est qu'on a mis une liste de livres qui peuvent vous permettre d'aller plus loin encore dans vos recherches. Il y a un disque qui a été mis en marché sur le cabaret du soir qui penche. Vous allez dans chez les disquaires, un disque 75 minutes d'extrait du cabaret. Il y a une histoire de la radio au Québec qui a été publiée il y a 2 ans à peine. Il y a quelque chose qui vient de sortir sur l'histoire de la radio et le Metropolitan Opera. J'en ai parlé un peu tantôt, M. La Rochelle. Il y a la phonothèque, le site web, j'en ai parlé tantôt pour continuer. La phonothèque, il y a plein d'extraits d'anciennes émissions. Là. Toutes les radios confondues, là, CKAC, CKVL, vous pouvez entendre plein de choses. Alors, si l'histoire de la radio vous intéresse, allez dans ces voies-là. Il y a des livres qu'on ne connaît pas beaucoup, mais cette histoire-là est commencée. Elle est commencée grâce à deux historiens fort importants à qui je voudrais rendre hommage en terminant. Pierre Pagé, René Legris, mari et femme dans la vie, mais deux immenses chercheurs qui, depuis 40 ans, ont donné forme à l'histoire de la radio et de la télévision au Québec en prenant le relais d'Elzéar Lavoie, lointain pionnier de l'Université Laval qui avait ouvert timidement le chemin. La radio est née en 22, la télé en 52. Il était temps, en 70, qu'on commence à raconter cette histoire puis qu'on se rende compte que là, il y a eu des Pellans, il y a eu des Borduas, il y a eu des grands personnages, Félix et tout ça. Mais la radio, on a des artistes importants, là. Et il faut commencer à les mettre aussi sur un même pied, tout ça. Voilà, bonne suite. Au revoir.
Excusez-moi, si ce n'est pas faire un outrage à votre discrétion, oui. Vous avez écrit un livre.
Oui.
Pourriez-vous nous rappeler ou nous dire tout simplement le titre de cet ouvrage? Parce que personnellement, j'aimerais aller plus loin.
Alors,
merci.
Mon livre a été publié en 2005. Je l'ai dit tantôt, ça s'appelle « Le laboureur d'ondes ». C'est publié aux éditions Multimonde. Vous allez sur le web Multimonde, vous allez aller tout de suite là. Et c'est un livre qui contient la plupart des photos que vous avez vues. Voici le bouquin en question. Et ma foi, et vous avez beaucoup, 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 beaucoup plus de renseignements, évidemment, parce qu'il y a 240 pages, là. Voilà.